L'avenir appartient-il à ceux qui se lèvent tôt? Qu'est-ce que l'avenir et comment le définir? L'avenir, c'est le brouillard de la vie. Tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas ce qui t'attend, mais tu y vas quand même. Après tout, tu n'as pas trop le choix. L'avenir, c'est vous, c'est moi, mais plus tard. L'avenir, c'est le présent de demain. L'avenir, ce sont toutes ces petites choses qui nous portent vers un objectif que l'on souhaite atteindre. Mais au fond, pourquoi dirais-je, pourquoi penser que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt? Eh bien, je vais vous le dire. Se lever tôt, qu'est-ce que ça veut vraiment dire au fond? Se lever tôt, ça peut simplement vouloir dire se lever à 5h du matin ou encore 13h pour ceux qui travaillent la nuit. Mais ça peut également vouloir dire s'y prendre assez tôt pour atteindre ses objectifs. Par exemple, relire une leçon 5-6 jours avant le contrôle pour avoir une bonne note. Mais l'horloge tourne vite pour les petites personnes que nous sommes. Je vais vous faire un aveu, mais il faut que ça reste entre vous et moi. J'adore dormir, faire des grasses matinées, prendre du temps pour moi. Ma mère me dit souvent d'ailleurs un mot pas très joli pour dire que je fais les choses au dernier moment. Elle dit que je procrastine et que je repousse tout au lendemain. C'est moche, mais c'est pas pour autant que je n'ai pas mon avenir entre les mains. Mais par exemple, j'adore le dessin. Et un jour, j'aimerais bien créer une vraie bande dessinée. Et dès aujourd'hui, je commence à m'entraîner en terminant l'une des 70 bandes dessinées que j'ai commencé à faire. Et maintenant, imaginez, je suis vous et vous êtes moi. Aujourd'hui, il vous reste 2 jours avant votre contrôle de fin d'année. Pour l'instant, vous n'avez rien révisé. Et vous avez le choix entre regarder la télé, sortir et travailler. Que faites-vous? Finalement, vous décidez de regarder votre série préférée, puis vous sortez avec vos amis. Et ensuite, il ne vous reste que quelques heures avant votre contrôle. C'est cette notion de temps qui peut tout changer. Et vous vous dites, mince, j'aurais dû m'y prendre plus tôt et m'amuser plus tard pour avoir une bonne note. Mais dire cela ne veut pas dire que je pense que l'avenir n'appartient pas à ceux qui se lèvent tôt. Prenez l'exemple d'une fille. Elle pense à son avenir. Elle voit loin. Elle agit fort. Et elle n'a pas envie de vivre dans un monde pollué. Je suis sûre que vous la connaissez. C'est Greta. Elle agit aujourd'hui alors qu'elle n'a que 18 ans. Et elle pense déjà à demain. Elle voit loin pour l'avenir de la planète. J'espère que vous avez apprécié mon discours. Parce que je vous l'avoue, j'ai un petit peu procrastiné pour l'écrire. J'espère que vous serez indulgents avec moi.
L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Olivia, à l'échelle d'une vie, on peut considérer que tu te lèves tôt de ton jeune âge pour prendre la parole.
Oh, le poète.
Félicitations. C'est pas moi le poète. Elle a commencé à amener ce sujet-là avec Greta Thunberg. Mais oui.
Greta est une poète aussi.
Effectivement. On enchaîne donc directement pour la catégorie 2 et on va, sans plus de blablabla, accueillir le dénommé Moussa.
Un monde sans frontières peut-il exister? Rebonsoir. Oui, c'est vrai, j'ai repris le thème de la dernière fois, mais il a été remastered. Comme ils disent les Anglais. Aujourd'hui, je vais raconter une histoire. L'histoire du monde que nous aurions pu être si notre monde n'avait eu aucune frontière. Déjà, ce serait plus facile de cartographier le monde et de prendre le large pour pouvoir pêcher, ce qui peut aider les pays les plus pauvres à être mieux placés nutritionnellement. Bon, après, se nourrir que de poissons, c'est un peu gavant, mais bon, on fait à ce qu'on veut. Certains pays sont en guerre. Prenons l'exemple de l'Afghanistan, la Palestine et bien plus encore. Un monde sans frontières serait... Avec un monde sans frontières, excusez-moi, nos pays seraient assez rapprochés afin d'envoyer des militaires ou des avions de rapatriement. Avec un aussi continent avec un grand continent rapproché, nous aurons peut-être les mêmes fuseaux horaires. Plus besoin des applications qui disent « il est 25h37 au Japon ». Et de plus, nous aurions pu, faire fusionner certains pays. Par exemple, tous les pays qui finissent par « en ». Kazakhstan, Pakistan, y a quoi encore ? Il y a Turkménistan aussi. Ça existe ?
Afghanistan.
Ouais, Afghanistan aussi, c'est vrai. Ouais. Nous pourrons fusionner tous ces pays qui finissent par « en » et avoir un grand pays avec au moins plus de 160 milliards de PIB. Ce qui pourrait aider la population la plus pauvre, les populations les plus pauvres à pouvoir à être mieux passé socialement, si on peut dire ça comme ça.
Ok.
Avec les pays africains aussi. Non, je cherche juste une personne dans le public. C'est Ami. Bon, enfin bref. Du coup, les pays avec les pays africains aussi pourraient fusionner et cesser les guerres avec les djihadistes, etc.
Avec un certain flegme bien singulier. C'était l'interprétation de Moussa qu'on a eue. Il a quand même eu la bonne idée, terminée par « etc. ». Alors même que tout à l'heure, on utilisait le « etc. » comme l'ouverture au champ des possibles. Bravo Moussa.
Avez-vous déjà entendu l'expression « les jeunes ne s'intéressent qu'à leur nombril » ? Pour traduire, est-ce que les jeunes sont égoïstes ? Cher public, chers membres du jury, rebonsoir. Nombreux sont les reproches adressés aux jeunes par leurs aînés. Tu es paresseux, va ranger tes chambres, tes affaires, tu ne penses qu'à toi. Qui n'a jamais été critiqué pour son égoïsme parfois trop flagrant ? Il est vrai qu'en tant que jeune, nous pouvons avoir des attitudes déplacées. Cela arrive à tout le monde. Quelquefois, nous paraissons égocentriques, comme si le monde tournait autour de nous et pour nous. Il faut savoir que nous vivons une période charnière. Mais je ne suis pas là pour nous réguler à la place des victimes. Je voudrais simplement remettre les choses à leur place initiale. On remarque souvent que nos parents, professeurs ou autres personnes qui nous fustigent, si je puis me dire, ne se rappellent pas qu'elles sont passées par là, qu'elles ont été comme nous aujourd'hui. Ont-elles raté leur vie à présent ? Bien sûr que non. J'aimerais que nous soyons d'accord sur la notion d'égoïsme. Pour moi, c'est le fait de tout rapporter à soi, de ne voir que son propre intérêt dans toutes les choses que nous faisons. Un peu comme si notre propre volonté importait et que personne autour n'était considérable. En tant que jeune, je peux vous dire que je m'intéresse à bon nombre de choses, et dans tous les domaines. Les sciences, l'art, la nature, la société. Certes, tout le monde n'est pas comme moi. Mais si l'on s'attarde un peu sur les personnalités de chacun, on peut distinguer que les jeunes se captivent pour beaucoup de choses diverses. Les uns adorent le sport, les autres la lecture. D'autres encore se passionnent pour un art. Et ces exemples sont en masse. Chacun a une personnalité différente, mais cela n'empêche pas de se prendre d'intérêt pour autre chose dans sa propre vie. Qui a dit que les jeunes ne s'intéressaient qu'à leur nombril ? C'est bien simple. Notre vie ne serait pas si riche si nous ne nous intéressions qu'à elle. Pour enrichir, quoi de mieux que de faire des expériences, d'essayer, de se lancer dans quelque chose de nouveau ? Encore faut-il oser. Mais c'est tout cela, la vie. On constate dès lors une crainte, plus ou moins grande, face à l'inconnu. Et parfois, il est bon de se réfugier dans ce qu'on le connaît déjà. Notre propre vie, notre être. Apparaît alors cette forme d'égoïsme passager. Un peu comme si on se renfermait sur nous-mêmes, dans un cocon bien douillet. Cette fermeture ne se montre pas toujours. Mais quand elle est présente, elle nous permet, après, de nous ouvrir encore mieux et ainsi d'évoluer. Je pense que tout être humain passe par là, comme si c'était une étape obligatoire pour nous former et nous mener vers la vie adulte. On sort de ce cocon que l'on s'est formé pour se montrer sous un nouveau jour, encore plus fort et plus vaillant. C'est ce qui fait notre force à tous. Ensuite, un climat de confiance s'installe. On se sent bien, on vit. On continue alors notre petit bout de chemin sans savoir réellement où il va nous mener. Mais il ne tient qu'à nous de le décider. D'instinct, la curiosité nous guette. On a envie d'aller voir loin, plus loin. Je compare cela à un passant assis sur un banc. Il fait une pause et regarde le paysage. Et quand il commence à s'ennuyer, il se sent prêt à repartir. Il se lève et va encore plus loin. Si l'on regarde une autre facette de la vie des jeunes, je pense que l'on peut voir aisément qu'elle est fort remplie. Cela dépend encore de la personnalité de chacun. Tout le monde fait des choses qu'il aime. Cela permet de se sentir bien, de s'épanouir. Parfois, des petites choses banales et sans intérêt pour les autres. Une balade dans un parc d'à côté. La préparation d'un bon repas. Pour certains, il faut des choses plus marquantes. Ils veulent se sentir vivre et être surpris. Je pense qu'on peut faire une combinaison de tout cela et en arriver à une vie épanouie. On ajoute une pincée de détente à ce cocktail, étonnant, et on obtient un dynamisme renversant. Quand on regarde les adolescents de manière superficielle, je pense qu'il n'est pas difficile de constater qu'ils sont en majorité à vivre leur jeunesse avec leurs amis et les personnes qui leur sont chères. Je crois qu'on peut dire que c'est le pilier important dans la vie, de n'importe qui d'ailleurs, même pour les adultes, il me semble. Maintenant, quand on regarde les jeunes de manière plus approfondie, on voit à l'intérieur qu'ils peuvent aussi être attentifs aux autres. Ajoute tout cela à les relations amoureuses, et vous verrez qu'un jeune ne se préoccupe pas que de lui-même. Dès lors, peut-on dire que les jeunes ne s'intéressent qu'à leur nombril ? Certes, il existe des personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles. Mais je crois que cela n'est qu'un demi-mal. En effet, je pense que l'homme est naturellement bon. Si mon hypothèse est correcte, les individus égoïstes ne le sont pas depuis toujours. C'est un caractère qu'ils ont développé, sûrement suite à un bouleversement. Regardons-nous. Nous sommes tous différents, à la fois physiquement, mais aussi intérieurement. Maintenant, analysons chacun personnellement notre comportement et nos actes. Comment peut-on juger ainsi, sans connaître et sans approfondir ? Les jeunes ne s'intéressent qu'à leur nombril. Oserez-vous encore le dire à présent ?
Bonsoir à tous. Bonsoir jury. Vous allez bien ?
Oui.
Bon, assez parlé. Entrons dans le vif du sujet. Alors pour moi, dire oui est une chose et dire non en est une autre. Mais ne pas dire oui ne veut pas forcément dire non. Prenons par exemple une personne qui pleure. Elle n'aura pas envie de répondre parce qu'elle est triste, mais les autres personnes voient qu'elle est triste et vont la voir en disant « ça va ?» Bon, à partir de ce moment, la personne doit se dire à elle-même « bah, bien sûr que non, ça ne va pas. Ne sois pas stupide, réconforte-moi. » Bon, voyez le genre, quoi. C'est un dilemme. Ce n'est parfois pas possible de répondre à certaines questions. Prenons un exemple tout bête. Les céréales après ou avant le lait? Certains diront après et d'autres diront avant. Eh bien, c'est pareil pour le cas que nous traitons actuellement. Ce n'est pas possible de dire oui, mais pas possible de dire non également. C'est comme si je vous demandais, vous savez, c'est quoi de se prendre une balle de pistolet alors qu'on est à Persan, quoi? On n'est pas en Seine-Saint-Denis. C'est stupide de demander ça à un Persanais. Donc, ce que je conclue avec tout ça, c'est que ne pas dire oui ne veut pas dire non. Ça veut simplement dire « je sais pas » ou « I don't know » en anglais. Bon, après, je suis pas bilingue, donc je vais pas vous apprendre toutes les langues du monde. Merci à vous de m'avoir écouté. Moussa Sidibé, j'ai pas fini. Un jeune Persanais qui a participé à un stage d'éloquence.
Depuis que ce concours a commencé, les sujets qui m'ont été attribués avaient tous deux un rapport. Ils parlaient tous d'amour. Et comme vous savez que j'adore l'amour, je vais vous parler amour. Faux ! Non, non. Je vais plutôt vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. La vie des gens. Oui. La vie des gens compte-t-il vraiment ? Dans la vie de tous les jours, on veut tout faire pour être le centre de l'attention, quitte à s'oublier soi-même. En voulant être sous les projecteurs, on va attirer les compliments. Mais une fois acquis, il suffit d'un faux pas pour que les feux qui jadis nous faisaient briller s'éteignent, tout en nous laissant dans le doute. Mais comment et où commence cette dépendance du regard des autres? Honnêtement, il n'y a pas de réponse. Prenons un exemple. Au collège, en général, on veut tous ressembler à son idole, copier son style pour attirer les compliments. Et franchement, quand on regarde bien, on trouve ça ridicule. Je pense que si moins de personnes se souciaient de la vie des gens, il y aurait moins de problèmes. On est maître de soi. Arrête. On est maître de soi-même. Et personne ne devrait se mettre des barrières dues au regard des autres. On ne peut pas arrêter ni interdire les critiques incessantes. Mais en revanche, nous pouvons les ignorer. Après tout, ce ne sont que des regards et des critiques. Si Einstein avait pris compte des critiques qui le disaient fou, aurait-il réussi? Serait-il devenu connu? Puis, quand on regarde bien, les critiques sortent souvent de la bouche des rageux. Et il ne faut pas hésiter à leur dire « Je vous en bête !»
Mais Aïcha, l'essentiel, c'est pas tant les bons de cinéma. On est d'accord. Aïcha. Avant tout, je le rappelle encore une fois, c'est évidemment partager un moment ensemble. Prendre le temps de s'écouter, c'est très rare en 2021 de passer comme ça, un samedi soir, ensemble, plusieurs heures, à écouter des mots. Et je trouve que c'est assez précieux. Alors les bons de cinéma, pourquoi pas, mais dans le fond, peu importe.
Voilà, merci, merci. Merci.
Mesdames, messieurs, chers jury, bonsoir. Je viens vous dire que je vous admire. Oui, oui, je vous admire. Je vous ai exposé plusieurs sujets et à chaque fois, vous m'applaudissez avec un tel enthousiasme que j'ai envie de revenir à nouveau. Maintenant, je voudrais aborder un sujet sur le changement. Le changement est-il bénéfique? Je dirais tout d'abord que le changement est bénéfique lorsque l'on sait le gérer. Le gérer, c'est se donner la chance d'explorer la personne que nous pourrions être dans nos rêves les plus fous, se réinventer. En réalité, nous voulons changer vers du positif, mais nous ne savons encore rien de cette version que nous avons en nous. Se défaire des vieilles habitudes n'est pas une chose facile. Nous devons nous concentrer sur la personne que nous voulons devenir et pas sur celle que nous étions. Il est donc normal de ressentir de la nostalgie à certains moments. Mais nous devons cependant nous concentrer sur nos envies, nos projets, et que le besoin de changement est signe qu'il y a quelque chose de meilleur en nous et qu'il est temps d'aller le chercher. Il faut savoir que la vie est un voyage avec les autres, mais aussi avec soi-même. Le propre du voyage, c'est de ressortir en ayant changé, d'en avoir appris plus, d'être différent. Le changement est nécessaire à l'évolution positive. Changer peut être attirant, mais aussi faire peur. On est poussé par le désir de voir notre vie s'améliorer, ce qui, évidemment, implique un changement. Le truc, c'est que, dans le même temps, l'inconnu fait peur. Il peut être long et surtout changer nos habitudes. On se dirige vers une voie qui nous semble meilleure sans l'avoir vraiment expérimenté au quotidien. Une partie de nous souhaite le changement, alors qu'une autre a peur de ce même changement, même s'il s'agit en ligne de mire d'une évolution positive. Si notre vie n'est pas celle que nous voulons, nous pouvons tout à fait nous créer une vie bien plus taillée sur mesure pour nous-mêmes, même si nous avons des contraintes et des responsabilités. Alors, trouvez le courage de le faire pour votre bien-être, car personne ne peut le faire à votre place. Qui l'on est dépend de nos actions.
Les enfants, c'est important ce que vous avez fait ce soir, c'est vraiment cool parce que c'est des débuts de passion, je pense, que vous avez en vous, vous ne vous rendez pas forcément compte. Et il y a des adultes également ont des passions en eux. En fait, ce texte, il s'appelle Passion. Je l'ai écrit à un moment où je voyais qu'il y a des gens autour de moi qui n'osaient pas aller vers leur passion. Et c'est important, je pense. Parce qu'elle fait battre ton cœur, te fait ressentir la vie. Elle atténue tes douleurs et te protège de l'ennui. Ma passion est humaine et je l'exprime par des mots. Elle n'est pas puritaine. Je veux qu'elle brille comme un joyau. Elle ne plaît pas à tout le monde, mais elle reste intacte, transformée en action. Elle a encore plus d'impact. Ma passion, c'est d'être là, devant vous, vous toucher. Car vivre, ce n'est pas que respirer. C'est aussi avoir le souffle coupé. Je suis pas là pour slammer. Je suis là pour vous faire ressentir que ma passion à moi, c'est juste d'écrire. Ce que je sais de la passion, c'est qu'elle est liée à l'amour. C'est quelque chose que tu fais sans attendre de retour. Vos passions à vous, je ne les connais pas. Mais les trouver au fond de vous fera un meilleur soi. Vous savez quoi ? Vous ne ferez jamais mieux ce que vous faites par passion. Ne séparez jamais le travail de l'émotion. Quand j'étais petit, j'aimais les dictées et les chiffres et des lettres. Je ne me serais jamais douté que ça faisait partie de mon être. Mais les adultes, je sais que dans ce monde capitaliste, on a peur de nos passions. On se dit qu'avec ça, on ne peut pas faire de pognon. Pourtant, quand je vis ma passion, tu ressens cette passion. Et c'est avec cette passion que j'achèterai ma première maison. Je ne suis pas là pour slammer. Je suis là pour vous faire ressentir que ma passion à moi, c'est juste d'écrire. Si tu es amoureux, sois-le passionnément. Si tu aimes cuisiner, eh ben, cuisine passionnément. Car quel que soit le résultat, si tu le fais passionnément, personne ne pourra jamais t'enlever ce moment. Car elle fait battre le cœur, elle te fait ressentir la vie, elle atténue tes douleurs et te protège de l'ennui. Moi, ma passion, elle est humaine et je l'exprime par des mots. Elle n'est pas puritaine, je veux qu'elle brille comme un joyau. N'oubliez pas que vivre, c'est pas que respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé. Merci. Et dans votre process mental, les jeunes ou même les adultes, il y aura des doutes. Des doutes, c'est normal de douter. On n'est jamais sûr de rien dans la vie. Douter, c'est humain. Quand vous doutez, surtout que là, je vois que vous parlez bien, vous avez une très belle élocution, vous écrivez, bah, continuez à écrire. Parce que moi, quand je doutais, quand j'étais là, je sais pourquoi je fais ça, pourquoi je fais des spectacles, j'ai un diplôme que je me sers pas. Pourquoi ? Des doutes. Un jour, j'ai pris une feuille et un stylo et j'ai marqué pourquoi je fais ça. Ce qui fait que quand je doute, moi, c'est écrit quelque part et je peux le retrouver. En fait, je me suis rendu compte que j'écris des textes depuis petit pour donner de l'émotion. Et je continuerai jusqu'au bout, car c'est ma seule et unique résolution. J'ai compris que c'était le but de mon passage sur Terre, quand j'ai vu que l'amour était devenu un mystère. Je ressens de l'amour pour chaque être de ce monde, comme si on était tous connectés depuis notre première seconde. Si ça te paraît utopique, c'est que t'as pas essayé. On est sur Terre pour s'aimer, pas pour s'exterminer. J'ai vu des enfants sourire, sans même savoir pourquoi. J'ai vu des adultes trahir, juste pour devenir roi. J'ai vu des pop stars mourir, tomber en dépression. J'ai vu des peuples se haïr, sans se rappeler de la raison. Je connais pas mon avenir et je veux oublier mon passé. Fais juste en sorte que mon présent honore ma destinée. Je viens d'un pays, d'une ville où je vois la misère tous les jours. J'espère que le chronomètre de l'espoir a commencé son compte à rebours. Parfois je fais du stand-up, parfois j'écris des chansons. On me demande de choisir, je comprends même pas la question. Quand j'étais petit, ma mère me disait « Fils, tu sais, la vie n'est pas compliquée. C'est nous, les humains, qui nous la compliquons. » Je vous balance ce texte sans pression, parce qu'il vient de mon cœur. Je suis sur Terre pour kiffer, aider et trouver mon âme sœur. J'ai un faible pour les blondes. J'aime aussi les brunes. J'avoue, je suis romantique. J'aime écrire sous la lune. Rien à faire de la thune. J'ai grandi sans oseille. Et tout ce qui compte au fond de moi, c'est que ma mère trouve sommeil. Donc forcément, j'ai grandi. Donc forcément, j'ai moins de potes. Mais les vrais sont restés. Ils sont mes antidotes. Ce soir public, je souhaite à toutes et à tous Carpe diem, mashallah, namasté et autres messages positifs. Cette vie est belle, insensée, mais qu'est-ce qu'elle est jouissive. Ce qui nous attend demain, on n'en a aucune idée. Et c'est tellement incertain que je préfère pas y penser. Bienvenue dans ce monde qui peut sembler bordélique. Certains diront qu'il est triste, d'autres qu'il est poétique. Et avant de partir, je vais vous donner mon secret pour être toujours heureux. J'aime les gens comme ils sont. Parce que je ne suis pas mieux qu'eux. Merci à tous. Ouais. Continuez comme ça, les gens. Continuez comme ça.
Rien ne peut plus empêcher mon activité cérébrale. J'aimerais croire que mes mots puissent percer le métal. La condition d'être humain est bien fatigante. Ce passage sur Terre est une épopée fascinante. Si Dieu voyait à quel point les hommes sont misérables, il entrerait alors dans une colère considérable. Combien de jeunes vivent dans le mal-être trop tôt et cherchent la solution sur les réseaux sociaux? J'ai passé trop de temps pour les autres à me faire un sang d'encre, alors pardon, mais tes problèmes, désormais je me casse les pieds pour pouvoir écrire des bêtes de prose, puis je me rappelle qu'il faudrait que j'accomplisse quelque chose. On se bat les uns les autres pensant affronter la haine. Aucun ennemi ne sera plus violent que la bêtise humaine. Tout ce que je vois à l'horizon sont les portes de l'enfer. Peut-on revenir à la raison après être parti en guerre? perdu car les icônes actuelles me mettent mal à l'aise. Le monde a besoin de Lino Ventura, pas de Gilles Verdez. Je voudrais cesser de prendre de l'âge car à force c'est moche. Et j'en ai un peu assez de rêver de la mort de mes proches. Je débite des inepties en style brisé, dans des textes aux allures de directives anticipées. L'échec et la défaite regardent ma colère d'un bon œil. Mes ennemis intérieurs portent les couleurs de l'orgueil. Alors j'accueille la solitude en guise de sanctuaire pour ne pas hurler ma frustration comme Benoît Paire. Il y a un sacré problème avec notre génération et il nous faudra peut-être bien plus qu'un coup de bol. Plutôt que de lutter pour dépasser ce foutu plafond, on préfère briller même coincé au sous-sol. On va l'apprendre par cœur celui-là en vrai, il est pas très très long. Bon, j'ai pas de super transition comme lui, mais du coup on va faire un petit mot de la fin, un slam que j'ai écrit en pensant souvent à ce que je fais pour les enfants et avec les enfants, et du coup ça vous est un peu dédié. Que les choses soient bien claires, une qualité, moi, sincère, un peu de repos pour mon esprit tranquille qui dort au loin, un peu de philosophie pour faire comme Victor Cousin. J'aime l'école, les cris d'enfants dans la cour de récré. J'aime l'instant présent car tous les jours je veux rêver. J'aime les livres, la poésie, la langue française. J'aime le sport, le tennis, la boxe anglaise. J'aime les pizzas sauf celles où l'on trouve des anchois. J'aime prendre la parole quand on me dit présente-toi. J'aime les filles, parfois j'aime leur offrir des fleurs. Mais c'est encore mieux quand j'arrive à ouvrir des cœurs. J'aime l'affrontement, l'opposition, la guerre. J'aime quand mon adversaire termine à terre. J'aime la passion, la couleur rouge, l'amour et l'enfer. J'aime quand tout le monde bouge, ne pas être sédentaire. J'aime la souffrance, car c'est après seulement que l'on peut être heureux. Que Dieu me pardonne de faire de mauvais choix, d'être peureux. J'aime l'eau qui coule sur moi dans la douche. J'aime les desserts qui me mettent l'eau à la bouche. J'aime regarder les gens dans le métro. J'aime quand personne ne jette ses mégots. J'aime la musique, les dessins faits de 1000 notes. J'aime quand mon petit cochon d'Inde court et gigote. J'aime la fiction, le rêve, la perte de réalité. J'aime le réel, le concret, écrire quand j'ai pas d'idée. Je pourrais écrire des centaines de mots qui se tiennent par la main. J'aime quand l'histoire devient inattendue à la fin. J'aime savoir que je suis en vie alors qu'un jour je vais mourir. Plutôt que de souffrir, moi j'ai choisi de sourire. À chaque nouveau jour, c'est dingue, je suis encore touché. Je tape un check avec moi-même, c'était Marco. Bonne soirée.
Pour clôturer cette 4e édition, je vous donne rendez-vous pour le second volet la semaine prochaine, toujours à la même heure et toujours sur les mêmes fréquences.
Une alternative.
Un autre choix.
Alternative FM.
96.7 et 106.5.
Je reconnais que la nouvelle que vous m'annoncez me comble de joie.